Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Hugo, bienvenue sur le podcast Le futur c'est maintenant. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Je suis ravi de t'accueillir dans nos locaux. L'objectif aujourd'hui c'est qu'on puisse discuter un petit peu de marque employeur, ouais, de ton parcours, qui tu es. Et peut-être qu'on pourra réussir à aller chercher un peu de substance sur quelques conseils quand on est en pleine recherche d'emploi, stage, alternance, qu'on veut travailler peut-être dans une ESN, dans la tech.
Ouais,
voilà, c'est ça. Parce que toi, tu travailles chez ExoMind.
C'est ça, ouais, ExoMind. Donc, ExoMind, si je résume très rapidement, donc ESN, société de conseil, agence de développement. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs dénominations pour ce genre d'entreprise. ESN, c'est vraiment le qualificatif de base, on va dire. Après, aujourd'hui, nous, on a la chance de chez ExoMind de travailler de deux façons. Donc, sur une façon vraiment conseil, d'où l'appellation cabinet de conseil, où on va dans les équipes de nos clients les aider sur leurs problématiques. Et la partie agence de développement, où là, voilà, vraiment, on va développer en interne avec nos équipes des projets from scratch. ExoMind, donc c'est une jeune société, étant donné qu'on fête nos 4 ans, là, on a fêté nos 4 ans là, au début de cette année, 2023. Donc début d'un projet, et vraiment voilà, dans le développement, dans la tech, nous c'est ça notre cœur de métier, hein, c'est de gérer des sujets de développement d'applications web et mobile.
Et toi, du coup, Hugo, ça fait combien de temps que tu as rejoint ExoMind ?
Eh bien, alors moi, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que je l'ai rejoint au tout début. Je l'ai rejoint au tout début, donc en 2019. Et là où on rejoint un peu le thème du podcast, c'est qu'on va pouvoir parler un peu du parcours et de comment, en 4 ans, on en est arrivé là,
ouais,
sur la marque employeur.
Vous étiez combien quand tu as rejoint ExoMind ?
Alors, quand j'ai rejoint ExoMind, on était 4. Donc c'était vraiment une petite équipe, vraiment start-up. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on est un peu plus de 120. Donc deux momentum un peu différents dans la société. Mais pour autant, toujours hyper intéressant. Et c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un lancement d'entreprise réussi, quelque part.
Et toi, sans tout de suite aller sur parler de ta boîte d'ExoMind, moi, je suis curieux de savoir ton parcours.
Ouais.
Ce que tu as fait à l'école,
ouais.
Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur Hugo? Par exemple, aller creuser jusqu'au bac, qu'est-ce que tu as fait comme,
ouais,
comme bac?
Ouais, ouais, alors c'est assez intéressant. Moi, j'ai donc je fais un bac techno pour le coup. Je fais un bac donc à l'époque STG, ouais. Donc qui est maintenant STMG. Ça a certainement dû rechanger encore depuis. Donc c'est pas si vieux que ça, hein, quand même. C'était en 2013, donc bac STG. Avec déjà un aspect marketing. Donc, ce qui m'avait plu, moi, dans ce bac techno, c'est qu'on pouvait déjà apprendre un peu de la compta. Les maths étaient hyper tournées sur des probabilités, sur des pourcentages. Enfin, des maths vraiment plus appliquées à la vie de tous les jours, je dirais, que des maths un peu plus abstraits.
De concret que...
C'est ça, ouais. C'est vraiment... Donc, bac techno, c'était ça. C'est du concret, c'est de la gestion. On avait fait... comment ça s'appelle, de la compta, du marketing, etc. Donc suite à ça, moi j'étais plutôt bien embarqué là-dedans. Jamais été très très friand, hein, des études ou quoi que ce soit. Donc je me suis un peu laissé porter par la mouvance. Le marketing me plaisait bien. Donc j'ai intégré une école à Lyon de marketing et communication, donc l'ISEG.
Ouais.
Et moi, ce qui m'avait intéressé dans cette école, c'était qu'il y avait pas mal de professionnalisation dedans. dans le sens où tu avais beaucoup de stages. Dès la première année, en fait, tu étais en D'accord. stage.
C'était un bachelor, c'est ça, pour commencer ?
C'était un an, direct en 5 ans. Direct
okay, un
en...
programme.
Ouais, un programme 5 ouais. ans. Bon, école privée, un modèle assez classique, hein, y en a plusieurs comme ça. Mais voilà, ce qui m'avait plu, c'est que tu sortais de cette école, tu avais quasiment 2 ans de stage dedans, quoi. Super. Et un peu d'international.
Et toi, tu es de Paris, si je ne me trompe pas ?
Non, alors moi...
Maintenant, tu travailles à Paris ?
Maintenant, je travaille à Paris, donc depuis 2017, il me semble. Et sinon, je suis originaire de Voiron, à côté de Grenoble.
Ok.
Voilà, le D'où ski, la montagne, tout ça, tout ça. D'où les études à Lyon. Les études à Lyon. C'était un peu voilà, l'objectif aussi d'aller à Lyon. Pour moi, c'était voilà, après le bac, de partir de chez papa, maman, d'avoir un appart. C'était ça qui était cool.
Moi, j'avais pas mal de potes en Haute-Savoie. Et je me souviens que certains au lycée avaient pris un an supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils préparaient, je crois, le diplôme de moniteur de ski ou de guide de haute montagne.
Ouais.
Et du coup, tu pouvais faire une terminale un peu rallongée où il y avait des lycées un peu spécialisés.
C'est possible, ouais. Moi, ça, c'est...
ça super fun.
Ouais. Ouais, ça, c'est la classique des régions montagnes. J'ai pas mal de potes ouais, voilà, qui ont fait saisonnier, mono, etc. Ouais, ça, c'est facile.
Et comment du coup t'as pris goût pour le marketing, pour la com? C'est venu à l'école, c'est venu dans des stages?
C'est venu bon, alors moi j'ai toujours eu une appétence plutôt voilà, de personnes qu'on pourrait qualifier d'assez communicantes. J'aime bien être en contact avec les gens et puis ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça pourrait être un peu classique de dire ça, mais on découvre un monde un peu particulier dans la com, qui je pense com market, qui est qui est hyper visuel, hyper documenté. Voilà, on pourrait puiser les origines de la com hyper loin dans l'histoire de l'humanité carrément. Mais moi, ce qui m'avait bien plu, c'est que je pense qu'on vit et on est né dans une époque où c'était vraiment c'est la com émettre, quoi, et elle a fait des sociétés, tu vois, comme je dirais comme Apple. Bon, même si derrière t'as de la techno, etc., mais la com a vraiment fait des sociétés aujourd'hui qui sont hyper puissantes juste sur une promesse, sans forcément de grandes, quand tu fais Facebook, t'as pas non plus, tu fais pas une fusée, tu vois, derrière. Et pourtant, avec tout le package, la com et l'engouement qu'il y a eu, t'en fais des marques indétrônables, quoi.
Toi, le mot marque, c'est quelque chose qui te parle. Dès l'école, tu t'es dit, tiens, stratégie de marque, attractivité, communication, c'est un levier pour une boîte.
C'est quelque chose qui me plaît parce que moi, ça m'a toujours fasciné à quel point deux produits similaires ou deux services similaires n'auraient pas le même impact en fonction de la marque.
Ouais.
Et comment tu peux expliquer, je dis n'importe quoi, que tu vends une clé USB Louis Vuitton à 600 euros, alors que dans les faits, tu achèterais la même clé USB dans le commerce, 30 peut-être. Ouais. Et tout ça derrière, en fait, tu as exactement le même stockage. Bon, ok, peut-être que la puce Louis Vuitton, la clé USB, elle sera peut-être, tu vois, en argent, voire même en or peut-être. Ouais. Mais ce n'est pas le poids de l'or qu'il y a dedans qui va faire sa valeur, c'est vraiment... ce que la marque a mis derrière, les émotions, et puis à quel point les gens aiment se rattacher à des marques pour dire bah moi je fais partie de cette bande, tu vois.
Ouais.
Moi je fais partie des skieurs, moi je fais partie des skateurs, moi je fais partie des mecs en costard, je suis plus dans la finance, tu vois. Et les gens, ils se raccrochent à des marques et en fait ils se définissent, je pense, par rapport à des marques.
Ouais.
Tu vois, moi par exemple, j'achèterai pas peut-être des marques genre Quicksilver, tu vois.
Pourquoi?
Parce que je suis pas un surfeur, tiens. Okay. Non, mais là, je t'ai pris un exemple.
Du Salomon, peut-être.
J'achèterais peut-être du Salomon, et encore que, parce que je te dirais, ouais, c'est vraiment un truc de randonneur, de Grenoble en sac à dos.
Ouais.
Mais voilà. Donc, ouais, je pense que les gens se définissent beaucoup par rapport aux marques. Sur les produits, c'est sûr. Ouais. Sur les services, c'est peut-être encore autre chose à creuser.
Et s'il y a trois marques que tu devais me citer qui t'ont inspiré quand tu étais étudiant, qui t'ont un peu drivé pendant tes études. Moi, quand tu parles d'Apple, évidemment, moi je trouve que là, tu vois, je vais avoir 32 ans, j'ai un peu baigné là-dedans. Aussi, je me souviens des premiers Mac, j'aimais beaucoup la différenciation par rapport à Microsoft, même si j'adorais aussi utiliser des PC. Mais je trouvais ça sympa, le design, l'expérience utilisateur. Et c'est vrai qu'il y avait un côté émotionnel plus visible, je trouve, sur ce genre de marque. Et moi, il y a une autre marque que j'ai beaucoup aimée, c'était Red Bull, parce que j'adore le sport extrême aussi. Et je trouvais que toute la stratégie de communication, tout ce que ça véhiculait, je trouvais ça hyper inspirant. Je sais pas si c'est, ça des marques, toi aussi.
Ouais, alors j'irais pas jusqu'à dire que ces marques.
Sans parler de l'éthique autour de ces marques.
Ouais, ouais, non, bien sûr. Non. Mais non, j'irais pas jusqu'à dire que c'est des marques qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est aussi parfois des concours de circonstances. Mais en tout cas, des marques, je me souviens, qui m'avaient marqué. Donc, il y en a une que j'aime bien, c'est Under Armour.
Ok.
Je sais pas si tu connais vite fait.
Si c'est ouais, c'est une marque. Si
ouais, alors à la base, c'est ce qui était assez sympa. Moi, j'avais trouvé dans l'histoire de ces marques. Bon, alors, si je me rappelle bien, pas dans les détails, mais en grosso modo, c'était des étudiants qui avaient voulu faire un vêtement technique, pour le football américain.
D'accord.
Et voulaient justement pas faire un truc semi-technique comme des Nike ou des Adidas auraient pu faire.
Ouais.
Et les mecs, ils avaient fait un prototype, donc vraiment voilà, avec des vêtements techniques, et ils ont explosé comme ça, et maintenant c'est une marque de folie.
Et ça s'est d'abord vendu dans les universités ?
Je crois que ça s'est d'abord vendu dans les universités, sur une équipe, peut-être même sur une équipe, tu vois, de football américain d'école. Ça m'avait marqué comme histoire. Red Bull, ben forcément, parce que la marque est juste folle, et c'est le bon exemple. Moi, j'aime bien prendre quand même comme Red Bull quand dans n'importe quelle société, on dira « Ouais, mais attends, l'argent dans la com, dans le marketing, ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment bien, tu vois, de dépenser autant ?» Et si je me rappelle bien de mes cours, Red Bull, c'était un truc du genre 80% de leur chiffre d'affaires réutilisé dans de la com.
Tu vois. Ouais.
Donc, bien sûr, dans des F1, dans des avions. Red Bull...
C'est vrai que le ROI, des fois, il est dur à le retour sur l'investissement. Il n'est pas facile hyper à calculer quand tu mets du budget, communication, marketing.
C'est hyper dur.
Néanmoins, c'est...
Bah,
c'est un levier de business qui est
c'est un levier de business. Et puis aujourd'hui, on a beau vivre, je pense, dans un monde où voilà, où tout le monde communique, etc., tu fais vite quand même la différence entre une société qui communique vraiment et qui met des moyens dedans,
ouais,
et une société qui fait rien dedans. Et en fait, tu te rends très vite compte que même si tu as une belle entreprise, si tu communiques pas à l'extérieur, parfois c'est par choix, hein, parce que tu fais peut-être du B2B hyper fermé, t'as pas besoin de communiquer, mais tu te rends vite compte que t'existes pas sans la communication, sans l'image de marque. Y a des tonnes de PME, mais qui ont raison et à choix parfois, qui font des trucs B2B qui sortent des 200 millions de CA.
Ouais.
C'est inconnu au bataillon.
Ouais.
Pourtant, elles marchent très bien sans cette communication, mais parce que c'est sur un secteur très particulier. On est les seuls, je dis n'importe quoi, à faire des bouches d'aération, tu vois, pour immeubles, on est les seuls à faire des échafaudages, j'en sais rien. T'as pas spécialement besoin de communiquer. Quand t'es sur un marché hyper concurrentiel, t'es quand même obligé à un moment.
Et du coup, par rapport à ça, cette verticale communication, marketing, dans tes premières expériences professionnelles, tu t'es orienté vers quoi J'ai vu que t'as fait un stage, quoi, chez Soprasteria.
Ouais.
Consultant, plus ou moins.
En fait,
où est-ce que tu t'es... Tu peux me parler de tes 2-3 premières expériences pro, et où est-ce que tu as commencé vraiment à accélérer sur cette verticale-là liée à la com, la marque employeur, le recrutement?
Ouais, je pense que mes premières expériences marketing, donc c'est là où je disais que c'était intéressant cette école, c'est que dès la première année, on était en stage. Bon, on va pas se mentir, les premiers stages, souvent, ils tombent l'été. Quand tu es étudiant, enfin moi, je faisais en sorte de trouver le truc le plus... facile à trouver, qui est collé à peu près au truc et qui me permettait, et qui me permettait de pas, pas trop me faire suer, quoi. Donc ce qui est pas forcément très cool. Là où j'ai commencé à faire un stage assez sympa, c'était en troisième année où je suis parti à Londres. J'ai rejoint une nana qui faisait un truc hyper anglo-saxon, à savoir, tu sais, un peu les coach business.
Ouais, développement personnel.
Ouais, venez à mon truc et puis vous serez millionnaire demain.
Ouais.
Et du coup, moi je l'avais rejoint avant tout pour aller à Londres et après pour son truc. Et là, j'avais bossé un peu sur son community management, ses social media, lui faire des visuels, etc. Donc c'était, moi j'avais surtout aimé le temps passé à Londres.
Ouais.
Ça c'était, voilà, je m'étais débrouillé à faire des trucs sur Canva. À la fin de mon stage de 4 mois, elle m'avait donné, je crois, 50 pounds.
Ouais.
Tu vois, donc ouais,
je
faisais déjà du full télétravail quasiment, alors que ça existait même pas, donc autant dire que c'était quand même très light. Et après, c'est vrai que quand j'ai, pour mes 2 dernières années, je suis monté à Paris pour le coup, et là je suis rentré chez Soprasteria, là c'était différent parce que ben déjà c'est un groupe monde avec des vrais services. J'ai commencé à aller travailler au 34e étage d'une tour à la Défense. Donc tout de suite, ça te pose un peu plus le contexte.
On n'oublie pas l'étage de la tour à la Défense.
Non, non, on n'oublie pas. Bah non, parce que je me souviens que ça m'a impressionné. J'avais fait, ah ouais, quand même, 34 étages, ça commence à faire haut, quoi. Et puis, enfin, ça te met dans une ambiance. C'est pour ça que moi, j'aime toujours énormément la Défense, parce que je trouve l'endroit stylé. Y en a qui détestent, hein, ils préfèrent être dans du haussmannien en plein milieu de Paris.
Ah, moi, je supporte pas. Si je dois te donner mon avis, j'ai l'impression d'être une fourmi qui se promène. Comme ça, ouais. Je sens pas c'est l'impact que je peux avoir, mais après, c'est personnel.
C'est compréhensible.
Mais par contre, quand t'es jeune, c'est vrai que quand tu viens pas de Paris, ouais. C'est vrai qu'il y a un côté. Tu peux être émerveillé, c'est stimulant. C'est ça, ouais. Et effectivement, de bosser dans un grand groupe comme Soprasteria, je pense que c'est assez formateur. Tu vas voir plein de choses hyper attrayantes et il y a plein de choses, à mon avis, que tu coches de ta liste. Bon, je ne veux plus découvrir ça et je mets ça de côté pour plus tard.
C'est exactement ça. Et puis surtout, en fait, c'est que, comme quoi parfois, c'est la vie est un peu faite de hasard, mais c'est comme ça que j'ai découvert le monde du conseil, finalement.
Ouais.
Et là, je reviens un peu sur notre métier, sur notre société, etc. C'est que le monde de la prestation de services du conseil, donc on en a un peu parlé avec les scandales McKinsey, etc., plus dans la finance, la gestion de projet, etc. Enfin, moi, je me suis rendu compte que les gens et les étudiants, même quand ils sont destinés à faire du conseil, en ont pas forcément conscience du business que ça représente et des sociétés qu'il y a derrière. Et moi, quand je suis arrivé chez Soprasteria, enfin, c'est une boîte qui fait des milliards en CR, quoi. Je n'avais même pas conscience qu'elle existait avant trouver l'offre sur Indeed, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert ce monde-là, le monde de la prestation de service. Parce que dans les faits, on vend un service. Chez Soprasteria, c'est plus complexe. Ils ont c'est tellement gros qu'ils ont des branches où ils vendent aussi du SaaS, du logiciel. Mais en tout cas, moi, j'étais dans la division Banque Paris. Donc, on était déjà, je crois, 2000. Hein, c'est pour te donner une idée du truc. Sur de la prestation de service. Donc, moi, ce qui m'avait plu de prime abord, c'est que voilà, ça parlait de développement. Moi, j'ai beaucoup de potes de mon cercle d'amis qui sont devenus développeurs, etc. Donc, ça me parlait de loin.
Ouais.
Je m'étais dit, bon, bah voilà, la tech, ça me faisait un peu penser c'était aux jeux vidéo et tout.
Ouais, c'était quoi ton quotidien là-bas, du coup ?
Mon quotidien là-bas, donc j'étais directement dans une équipe en fait de ressources humaines.
Ouais.
Et en fait, on faisait de la com interne, externe. Pour notre division, parce que Soprasteria avait un groupe aussi forcément market, tu vois, enfin une entité marketing qui gère tout, tu vois. Et après, en interne, les BU ont leurs petits services en interne, tu vois.
BU, ça veut dire business unit, ouais.
Ouais, exactement.
C'est ça,
c'est ça. Et du coup, voilà, ce fameux poste marketing, mais dans une équipe de recrutement, donc je comprenais pas trop au début pourquoi. Et en fait, je me suis vite rendu compte que, une fois de plus, on y revient, la marque employeur dans la com et dans ce secteur d'activité particulier, en fait, elle est hyper importante parce qu'elle va faire la différence entre moi, j'ai envie d'aller bosser dans cette boîte et moi, je vais aller bosser dans l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as des sociétés aujourd'hui qui ont des marques employeurs tellement fortes, tu vois, je dis n'importe quoi, dans l'entertainment souvent, Ubisoft, Universal, TikTok, Netflix, les gens, ils font la queue pour aller bosser chez eux.
Ouais,
même si c'est moins bien payé qu'ailleurs, hein, les gens vont littéralement faire la queue en sortie d'études ou plus tard pour se dire ouais, moi j'ai envie de bosser chez Netflix, moi j'ai envie de bosser chez Ubisoft. Moi.
C'est un tampon sur ton CV. Là.
C'est ça. Alors ouais, c'est ça. Les gens pourraient te le faire passer pour un tampon, tu vois. Aller bosser chez Ubisoft, c'est top, tu vois. Après, quand tu regardes l'envers du décor, bah, peut-être que tu étais un peu moins bien payé que tu aurais pu l'être dans une société avec une moins bonne marque employeur. Peut-être que le poste était moins challengeant que ce qu'on t'aurait proposé, mais pour autant, t'y aller parce que la marque, elle te faisait kiffer.
Et quand tu sors d'études et quand tu es jeune, bon, c'est vrai que c'est peut-être le bon moment pour faire preuve un peu d'audace et tenter ce genre d'aventure.
Ouais.
Parce que t'es un peu naïf.
Bah, c'est
t'as
ça.
Juste envie d'avoir de l'impact, de t'accomplir, de trouver un petit peu ton rôle, ta mission. Et puis derrière, ça te fait une belle expérience sur ton CV que tu peux, que tu peux vendre à d'autres recruteurs plus tard. Ça, cette expérience chez Soprasteria, tu étais en alternance, en stage
c'était un stage. Donc j'ai fait un stage de 6 mois et je l'ai renouvelé 6 mois. Donc j'ai quasiment fait.
Super. J'ai
fait 2 ans.
Ouais.
En fait, j'ai fait un an quasiment coup sur coup.
Donc c'était un stage rémunéré, du coup.
C'était un stage rémunéré, ouais.
Et t'étais payé.
J'étais payé par minimum barème, légal. Hein.
Minimum légal.
Ouais, je sais plus combien c'était, mais c'était pas bien grand. Enfin, ouais.
Oh, je sais que dans des grands groupes comme ça, des fois, tu peux même négocier
Ouais.
Peut-être sur des postes un peu plus techniques.
Peut-être, peut-être. Ouais. En tout cas, bon, c'est comme ça que j'ai découvert le monde du conseil et de la prestation de services en développement, etc.
Et t'as fini tes études sur cette expérience?
Ouais, j'ai fini mes études sur cette expérience.
Stage de fin d'études.
C'est ça.
Et tu me parlais tout à l'heure en off, là, quand on prenait le café, d'un séjour à San Francisco. C'était quoi exactement?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon école, là, donc je suis allé à Londres d'abord. Et après, ils ont décidé d'ouvrir une filière, entre guillemets, internationale. Tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire cette filière internationale parce que ça me plaisait bien. Et pour faire cette filière, il fallait monter à Paris parce qu'ils regroupaient toutes les personnes intéressées de tous les campus
dans
de France. À Paris, donc du coup, enfin, c'est comme ça que je suis monté à Paris, donc c'est là que ça commence un peu. Et après, il fallait, on avait fait une classe en gros internationale, quoi, et on est parti à San Francisco, donc à Berkeley plus exactement, et à New York pendant un an.
D'accord, t'as fait les deux. Ouais. Berkeley, qui est une des universités les plus prestigieuses de.
Ouais, Berkeley, exactement. Donc, bon, moi, j'y suis allé aussi pour le nom, hein, une fois de plus, c'est l'image de marque quand même. C'est vrai que c'est. Même dans les universités, ça fonctionne aussi. Bon, après, c'était hyper enrichissant.
Ouais, c'est quoi les apprentissages du coup
On a eu pas mal de.
Partager ce que tu as retenu de cette aventure.
Pour moi, le plus important, c'était la maîtrise de l'anglais.
Bien sûr.
Premièrement. Deuxièmement, quand même l'ouverture d'esprit, découvrir. Bon, bien que la Californie, pour moi, c'est peut-être l'état le plus européen des États-Unis.
Tu trouves, ouais.
Bon, c'est en tout cas le plus. Ouais, c'est peut-être le plus open-minded des États-Unis.
Okay.
En tout cas, qui ressemble le plus à notre style de vie. Ouais. Ils aiment bien prendre leur petit verre de vin, leur machin. Ils essayent d'être. Les Californiens, ils aiment bien être à l'européenne un peu.
C'est vrai.
Donc, ouverture d'esprit. Et après, en cours.
Ouais,
ce serait mentir.
De la pédagogie, ouais, je suis curieux de savoir.
Moi, je pense
que j'ai pas fait. J'ai fait 3 mois à San Francisco, ouais. Mais c'était un échange. Tu vois, c'était pas forcément
c'était
dans
pas
une université.
Cours, ouais.
On était à la Golden Gate University.
Ouais.
C'était une école plutôt de droit, mais on avait une salle avec des intervenants, plutôt des professionnels. Donc, tu vois, on n'était pas sur des modules. De formation, de la pédagogie pure, des classes vraiment avec des Américains.
Ouais.
Et du coup, je suis curieux de savoir comment.
En vrai, comment ce serait mentir, je pense, de dire que d'un point de vue pédagogique, c'est hyper différent ou hyper plus cool. Le seul truc qui était assez sympa, c'est que, bon, en plus, à San Francisco, c'était un peu le berceau des nouvelles technologies.
Ouais.
Et
c'était en quelle année ça ?
C'était en 2016, tu vois. Donc c'était déjà et c'est vrai que les profs, les cours avaient un peu un temps d'avance sur les nouveaux réseaux sociaux qu'on utilisait, tu vois, Snapchat, même Instagram, ils étaient déjà un peu plus à la page, mais c'est normal, c'est né là-bas, quoi. Donc forcément qu'ils sont plus à la page. Après, d'un point de vue purement scolaire, je vais pas te dire waouh, c'est les cours que j'ai appris là-bas, c'est la masterclass que j'ai fait là-bas qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois. C'est pas vrai.
Puis
c'était l'expérience. Ce qui est le plus important, c'est vraiment la maîtrise de l'anglais.
Ouais. Tu utilises l'anglais au quotidien aujourd'hui?
Malheureusement pas trop.
Pas tant que ça.
Malheureusement pas trop.
Vous avez des équipes plutôt françaises aujourd'hui. Vous êtes pas encore.
Alors.
Pourtant, vous travaillez avec des grands groupes.
Ouais.
Internationaux.
Ouais.
Et dans le cadre de vos projets. Aujourd'hui, c'est plutôt.
C'est plutôt c'est plutôt francophone les projets. Donc, malgré comme tu dis, les grands groupes dans lesquels on travaille, on a eu quelques équipes qui étaient qui parlaient en anglais. Par exemple, chez Allianz, tu vois, c'était un peu plus anglo-saxon. Après, c'est vrai que les grands groupes pour lesquels on travaille, on peut citer hein, d'ailleurs, tu vois, Decathlon, Total, TF1. BNP, c'est vraiment des groupes français et ils sont quand même hyper attachés à la maîtrise du français, quoi.
Peut-être sur votre typologie de projet aussi, les missions sont.
Peut-être sur notre typologie de projet. Après, c'est souvent en fait en fonction des équipes qui sont déjà en place.
Ouais.
Si l'équipe elle parle français au quotidien, c'est sûr que une personne non francophone, on pourra pas l'embarquer sur un projet full francophone, quoi.
Donne-moi un exemple de projet que tu peux mettre en place avec ExoMind chez un groupe. Un cas d'usage, tu vois, je suis curieux de
savoir. Alors, il y a toujours les deux cas d'usage. Tu as le cas d'usage très tourné produit qui parlera plus peut-être à nos auditeurs, et le cas très business qui parlera peut-être moins. Donc je vais faire les deux. On peut avoir un cas d'usage où on a monté des équipes, tu vois, pour bosser sur les objets connectés Decathlon.
Ok, la domotique.
Alors la domotique, c'est plus lié à la maison, si je ne me trompe pas.
Ou là, peut-être c'est au sein des magasins, peut-être.
Mais là, c'était plus vraiment point de vue produit, tu vois. D'accord. Je dis n'importe quoi, on va faire un ballon connecté. Tu vois, vraiment un produit, quoi. Okay. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est des projets complètement qui n'existent pas, hein, mais pour vous donner un exemple, on va faire, je dis n'importe quoi, une boule de pétanque connectée. Plus tu la balances près du cochonnet, plus sur ton téléphone, par exemple, ça va te dire à combien de mètres, centimètres, millimètres elle est du cochonnet, et ça t'évite de mesurer avec ton bâton, tu vois. Ça peut être ça. Donc,
une paire de skis connectés.
Une paire de skis connectés. C'est
ça existe déjà, ça, je crois.
Ouais, certainement. Chez Decathlon, on bosse sur énormément de sujets d'objets connectés, et tout ça, c'est dans une optique vraiment de gamification du sport.
Ouais. Donc là, tu envoies des consultants.
Là, tu as des équipes. C'est-à-dire que Decathlon va dire dans le cadre de ce projet, on a besoin de deux développeurs iOS pour faire l'application iPhone, de deux développeurs Android pour faire l'application support Android Kotlin, et peut-être, je dis n'importe quoi, d'un PO, tu vois, d'un PO ou d'un chef produit. Et après, ces gens-là vont s'imbriquer dans des équipes déjà existantes, d'accord, peut-être composées d'internes, peut-être composées d'autres consultants d'autres sociétés. Mais ça, c'est notre type d'intervention, quoi. On a besoin, on apporte un service et un conseil, on a besoin d'eux, et nous, on essaye de combler ce besoin.
D'où l'enjeu de recrutement de marque employeur, parce que pour aller chercher ces ressources,
c'est ça.
C'est typologie de personnes, toi, tu ne les as pas toujours disponibles
non,
en interne.
C'est ça.
Et du coup, vous avez un gros enjeu de recrutement.
Nous, on a un hyper gros enjeu de recrutement. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu le poumon de la société, le recrutement aujourd'hui. Plus on est apte à embarquer, à recruter des personnes, plus on peut répondre à des besoins de nos clients. Donc c'est vrai qu'on est, des acteurs de recrutement déjà importants à notre petite échelle. Quand tu te dis que depuis le début d'ExoMind, on a peut-être recruté en 4 ans 200 personnes,
ouais.
C'est colossal.
C'est quoi comme typologie de profil ? C'est des jeunes diplômés ?
C'est de tout. Parce que
Des missions.
Voilà, ça dépend des missions. Alors nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on a un process de recrutement sur mission et sur profil. Sur mission, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà le besoin identifié et on va recruter une personne pour satisfaire ce besoin. Et sur profil, c'est tiens Paul, t'es un jeune développeur iOS. Moi, j'ai pas encore de mission, mais j'ai envie qu'on t'embarque dans les équipes. Donc on va te recruter et tu vas démarrer, tu n'auras pas forcément de mission encore.
Onboarding, ta phase d'intégration, tu l'as fait en interne avec les équipes.
C'est ça, exactement. Tu as les équipes recrutement qui vont t'onboarder, tu as les équipes commerce qui vont mettre en forme ton dossier, tes compétences, etc. Et par la suite, proposer ton expertise à nos clients.
Et comment tu vas chercher ces personnes-là ? Comment tu les attires ? Tout à l'heure, on discutait et tu me parlais de différents outils. Tu me parlais aussi un peu de cooptation, de plein de choses que tu mets en place pour attirer ces futurs talents ou ces talents.
Ce qui est... Là se joue une véritable guerre de recrutement.
Surtout à Paris.
Donc, y a trop de besoins. Mais c'est bien d'entendre ça. On entend toujours il n'y a pas de travail. Sur ce secteur-là, on a de la chance, mais du travail, il y en a plus qu'on peut y répondre. On investit énormément en interne dans des équipes staff.
Vous êtes quatre.
Au recrutement, elles sont 4 et une personne en charge de l'équipe, donc ça fait déjà 5. Au commerce, on a au moins une équipe de 10 personnes. Donc tout ça fait déjà quand même des bras. Et ces personnes qui sont en charge du recrutement donc utilisent des job boards, bien évidemment, utilisent beaucoup aussi de l'approche directe. Du sourcing, plus vulgairement parlant, de la chasse, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a une véritable guerre des talents, et c'est pour ça que nous, on essaye de beaucoup œuvrer auprès des écoles pour déjà en amont potentiellement identifier les personnes qui pourraient rejoindre nos équipes demain et aussi se faire connaître des étudiants pour que quand ils sortent d'études se disent « Ah, je me souviens de cette entreprise, ils étaient venus faire une presse, je vais peut-être postuler chez eux. Mmh. »
Ça, je trouve ça hyper mal. Hein.
Donc ça, c'est,
ça va
c'est
vous consommer pas mal de ressources.
Ça consomme de la ressource parce qu'il faut, pour se montrer dans une école, il faut y aller, il faut faire des interventions, il faut faire des modules, il faut leur donner des cours, il faut leur organiser parfois des events. Là, récemment, on a organisé des portes ouvertes où on faisait venir des jeunes d'écoles de commerce pour voilà, qui comprennent comment fonctionne un cycle de vente dans une ESN. Tu vends pas une paire de chaussures, tu vends pas un SaaS.
Tu vends de la compétence.
Tu vends de la compétence et en fait, tu vends des compétences humaines, tu vends une personnalité. Donc, chaque cycle de vente, tu vois, entre tu vas proposer Pierre, développeur iOS, et Ilona, développeur iOS, même s'ils font le même métier, tu as deux personnes complètement différentes. Tu en as un qui s'intégrera peut-être mieux dans une équipe, l'autre qui parle pas anglais. Donc, enfin, à chaque fois que tu proposes une solution de consultant à ton client, à chaque fois, c'est un cycle de vente différent. Quoi.
Est-ce qu'on peut faire un petit focus ensemble sur ton process de sélection, de recrutement? Est-ce que toi, tu interviens aussi là-dessus sur la sélection des profils, sur la qualification des profils? Comment ça se passe aujourd'hui quand on vient candidater chez ExoMind? Quand tu vas chercher, quand vous allez chasser vous-même, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse d'un projet avec le placement du coup d'une personne, d'un développeur par exemple, dans une entreprise pour une mission spécifique?
Donc aujourd'hui, on va dire largement à plus de 90%, la personne va être approchée par les équipes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue directement postuler dans la société. Donc ça, c'est un problème qu'on essaie aussi de régler avec de la marque employeur. Hein, typiquement, c'est on aimerait bien avoir plus
du pain béni d'avoir.
C'est
des...
ça. On aimerait bien avoir plus d'entrées ou de candidatures spontanées, comme on peut les appeler. Donc on approche le candidat et on lui présente voilà la société, les projets aujourd'hui, ce qui va intéresser hein, nos candidats aujourd'hui, c'est les projets, la qualité de nos projets. Donc, de travailler dans un beau groupe, un beau compte, d'aller bosser chez TF1, là où on a une vraie valeur ajoutée, c'est que de toi-même, jeune développeur, très difficilement tu pourras accéder tout seul à une mission chez TF1 ou à une mission chez Decathlon.
En freelance, par exemple.
Très compliqué. Ou alors, ce sera toujours via une société de portage ou une société spécialisée dans le freelance qui prendra des frais sur ta personne pour t'avoir apporté les contacts. La mission, la qualité des projets, une stabilité professionnelle, parce que tu es quand même en CDI, cadre. Donc ça, c'est quand même un statut qui mine de rien, quand même recherché dans le travail. Ouais. Avec tous les avantages du CDI, hein, je te dis pourquoi, la mutuelle, les transports,
les tickets resto. C'est une obligation. Hein.
Bien sûr, c'est une obligation, mais quand tu es freelance, tu les as pas. C'est les congés payés.
Les avantages du CDI. Ouais.
Les avantages du CDI.
Pas les avantages de venir travailler chez ExoMind parce que c'est des choses obligatoires, je
c'est
rappelle.
Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Il y en a beaucoup qui en abusent en disant avantages chez nous, tickets resto, mutuelle, sont ou transports sont des choses plus ou moins obligatoires.
C'est vrai que c'est plus ou moins obligatoire.
C'est pas les tickets resto, mais la mutuelle. Les transports.
La mutuelle et transports, ouais, à certaines hauteurs, les tickets resto, ça peut aller de 6 à 13 euros, hein. Ça dépend de l'employeur. Donc ce que je disais, c'est voilà le forme de contrat en fait hein, qui intéresse. Et puis bien évidemment, quand même la rémunération. Donc ça, c'est des sujets qui sont très rapidement abordés parce que nous, en fait, dans ce cycle de recrutement, on part du principe qu'on est vraiment en concurrence avec tout le monde. Et ainsi, un cycle de recrutement aujourd'hui doit se faire rapidement. Donc, c'est prise de contact, échange de personnalité. La personnalité, enfin, les soft skills, comme on pourrait dire aujourd'hui, sont au moins aussi importants que les hard skills. Surtout quand on fait du conseil, surtout quand on va chez le client et qu'on a une posture consultant.
Juste les soft skills sont les compétences interpersonnelles, le travail en équipe.
C'est ça.
Et les hard skills, c'est plutôt les compétences techniques,
exactement.
Les compétences liées à des formations.
Exactement.
Les compétences liées à des diplômes, des compétences qu'on va chercher sur des modules, sur le web, etc.
C'est ça. Après, tests techniques quand même.
Ouais, parce qu'on, des tests techniques.
Malheureusement, c'est un, les métiers de développeur, etc. C'est un, on peut, tu peux pas te cacher. C'est comme si, je dis n'importe quoi, t'es mécanicien, mais que t'es pas mécanicien. Ça va très vite se voir que t'es pas mécanicien, quoi. Donc, tests techniques avec des personnes du métier qu'on a.
Qui travaille aujourd'hui avec ChatGPT, on pourrait tricher pourrait un petit peut-être peu, parce que tricher. Je sais que dans les équipes, quand on galère un peu à trouver le bon morceau de code pour envoyer une requête ou pour construire une fonctionnalité, on a le petit coup de pouce ChatGPT qui est pas négligeable aujourd'hui, qui aide beaucoup. Encore faut-il décrypter le code et bien le comprendre, l'utiliser comme un outil et pas juste comme une solution. Et quand on triche, qu'on fait du copier-coller ou qu'on utilise une intelligence artificielle, généralement le recruteur il est pas dupe, je pense.
Ben, surtout quand tu mets dans la boucle, et nous c'est un peu cette valeur ajoutée qu'on a voulu mettre, c'est que aujourd'hui, si on arrive à accrocher des beaux clients et des beaux comptes, c'est parce qu'on se donne une... Enfin, on essaye d'être quand même hyper sélectif sur la qualité de notre code. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, là où à l'époque, tu pouvais peut-être... Il y avait encore moins de monde, c'était encore plus facile, tu vois, pour un développeur de dire « Bon, bah ok, moi, je vais prendre votre projet, je vais le faire et je vais le faire comme j'ai envie de le faire. » Maintenant, les clients veulent que les projets soient facilement transmissibles, que le code soit documenté, que le code soit RGPD compliance, que le code soit le moins énergivore possible. Donc aujourd'hui, il y a tellement de paramètres que en fait, le niveau, je pense que le niveau d'exigence de base pour un développeur a augmenté par rapport à il y a quelques années où en effet, ben t'avais peut-être un dev, tu vois, c'était lui qui savait le truc, et puis s'il partait,
surtout pour les juniors, parce que c'est assez paradoxal, on a l'impression que c'est plus ou moins le plein emploi, que quand on est développeur, c'est super facile de trouver un stage, une alternance, un job, mais il y a quand même une sacrée compétition.
Il y a une sacrée compétition.
Et il y a beaucoup de jeunes développeurs qui se forment aussi par eux-mêmes, par des formations en ligne, je pense à du Open Classroom, je pense à du Udemy, voilà, il y a plein de choses en ligne, et c'est vrai que quand on démarre, quand on est junior, il y a une sacrée concurrence et le test technique peut être assez challengeant.
Si on
a les soft skills, comme tu disais tout à l'heure, si on a une bonne attitude, ça peut compenser.
Ça peut compenser. Ça peut tout à fait compenser parce que, évidemment, tu ne juges pas un junior comme tu juges un mec qui code depuis 5 ans. En revanche, c'est vrai que tu as raison de le souligner. C'est un marché où on dit il y a du plein emploi, c'est facile, mais le premier job reste quand même assez dur à obtenir. Nous aujourd'hui on est dans une posture de conseil où on doit arriver chez notre client avec des solutions, donc souvent on est quand même sur des seniorités un tout petit peu plus élevées,
le client intervient dans la sélection du profil ou pas vraiment?
Bien sûr,
c'est lui qui le choisit
en fait. C'est simple, le client il dit moi j'ai besoin de ça. Nous, après, on a ce qu'on appelle des entretiens ou rendez-vous techniques où on dit « Bonjour, monsieur le client, voici Paul. Paul, il a fait telle étude, il a déjà bossé sur ses projets. Je pense que ça irait bien dans vos équipes parce que comme votre CTO, il est fan des Yankees, tu vois. Et à côté de ça, il a déjà bossé... sur un projet d'application bancaire, donc il sait comment ça marche, donc il va... Voilà. Et après, le client, lui, il va dire, moi, je rencontre 1, 2, 3, 4, 5, 10. T'as toujours une part d'affinité. Bon, moi, j'ai préféré, je verrais mieux Paul dans mes équipes que Michael, tu vois, peu importe. Mais c'est le client, à la fin, qui choisit.
Et au niveau du modèle économique, du coup, derrière, le client, il paye une prestation de service ou au démarrage, il finance quelque chose?
Non, en fait, le client paye à la journée.
Ok, ce qu'on appelle un TJM ou
c'est ça, on appelle ça un TJM.
Et dans la pire des situations, parce qu'on a une période d'essai ou on n'a pas de période d'essai? C'est quoi le type de contrat du coup?
Alors c'est un contrat de prestation, donc je suppose qu'on peut en avoir des plus ou moins sévères, strictes, avec des règles de peut-être des clauses de non-concurrence ou autre. Ouais. En tout cas, il y a un mois de préavis, si je ne me trompe pas.
Ça doit dépendre des clients aussi peut-être.
Ça doit dépendre des clients. Généralement, c'est un mois de préavis minimum. Et après, comme toujours, il y a toujours le fameux commun accord. Si c'est un client hyper important qui nous dit là, j'aimerais bien sortir de mission Intel, est-ce qu'il peut. En tant que société de prestation de service, on peut dire oui ou non. Après, c'est toujours. C'est de la politique. Est-ce que je vais froisser mon client si je lui force à garder mon consultant à moi? Est-ce que je le force pas? Nous, on a eu pas mal aussi le cas, donc ça, c'est très, très désagréable comme position. C'est quand le client essaye d'internaliser ton consultant.
C'est-à-dire qu'il veut
C'est-à-dire
le,
qu'il
le
lui fait du pied
ou...
pour lui dire ouais. Ah, tu bosses bien, moi je te recruterai bien en CDI à plein temps. Ouais. Ça, c'est, donc, c'est complètement interdit c'est, pour ouais. le coup. Après, une fois de plus, c'est un peu le.
C'est alléchant peut-être pour le candidat qui se.
Ça peut être
dans
alléchant.
Une situation
ça
qui correspond, qui lui plaît.
Ça peut être hyper alléchant. Le problème, c'est que ben, nous, ça dévalorise complètement notre travail.
Ouais.
Ça fait, enfin, ça dévalorise pas notre travail, mais. Ben, du coup, nous, on perd de l'argent dessus.
Ouais.
Si on perd, on perd tout. On perd la mission, la prestation de service,
ouais.
on perd la ressource, le temps qui a été investi pour la recruter, le temps qui a été investi pour trouver la mission.
Donc, tu es en train de me dire que des fois, il ne faudrait peut-être pas être trop bon. Parce que si tu trouves
le... Malheureusement, ça pourrait, ouais, ça pourrait être le,
ah,
le cas.
Ouais.
Et c'est un peu le combat tu vois, du pot de terre contre le pot de pierre. C'est-à-dire que si demain, tu as une multinationale, je ne citerai pas de nom, qui veut recruter ton consultant, elle est en capacité de te dire, enfin, tu es en capacité de lui dire non légalement.
Ouais.
Sauf que tu peux potentiellement te mettre à dos ton,
ouais.
ton consultant qui veut vraiment y aller. Tu peux te mettre à dos le client qui dit, bah, moi je prends plus personne de chez vous.
Ouais.
Et nous, ça nous est déjà arrivé, hein, des mecs qui ont dit, ah, vous voulez pas céder ? Eh bien, c'est dommage parce que vous rendez triste votre consultant qui va démissionner dans tous les cas de chez vous, vu que vous, la, vous avez.
Vous
lui avez gâché leur projet,
ouais.
vous nous rendez tristes, nous, et puis vous perdez le slot,
ouais.
et puis au passage, on ne veut plus travailler avec vous. Et puis voilà.
Il n'y aurait pas un modèle économique derrière en disant bah, vous pouvez le prendre, mais on prend un pourcentage sur le salaire,
alors,
sur le CDI la première année, un peu comme un cabinet de placement comme un...
Souvent, nous, ce qu'on essaye de négocier, si ça arrive vraiment, qu'on se rend compte qu'en effet, ben, le consultant veut y aller,
ouais.
et que d'un point de vue politique, ce serait une erreur de dire non. Même si c'est un peu forcé et que c'est très désagréable d'être dans cette position-là, ce qu'on essaye de négocier dans ce cas-là, c'est de dire, ok, ben, tu retires cette personne, mais du coup, on la remplace par quelqu'un d'autre,
mm-hmm.
et en plus, on prend un autre slot.
Mm-hmm.
Donc, tu nous en prends un, mais
d'accord.
on en remet deux.
Ouais. Ouais, y a un peu de marchandage.
T'as un peu du marchandage.
Vous êtes quand même bien orienté sur le sur l'état d'esprit du candidat, l'état d'esprit de la personne. En... Vous écoutez la.
Bien évidemment, tu peux pas aller contre. Tu
Comment
peux
tu
pas.
L'appelles, du coup, c'est la personne que t'as envoyé en mission. C'est
un consultant.
Le consultant. Ouais.
Tu peux pas aller à l'encontre de ce que ton consultant souhaite. En revanche, ce que tu peux dire quand même, c'est tu peux si c'est vraiment conflictuel, problématique, on a quand même la main légalement pour dire non.
Ouais, okay.
Et heureusement d'ailleurs, sinon en fait toutes les sociétés feraient appel à des la presta, paieraient je sais pas un mois de presta pour s'assurer que la personne bosse bien, c'est une période d'essai quoi, et puis hop on t'internalise. Après certains consultants n'ont pas envie d'être internalisés parce que
parce qu'ils aiment peut-être changer de projet aussi.
Bah c'est ça, ce qui est intéressant dans une.
C'est peut-être un bon moyen aussi d'augmenter son TGM, son
oui.
tarif journalier.
En fait, c'est ça, ce qui est intéressant dans une société de prestation, c'est que tu peux, je dis n'importe quoi, en l'espace de 4 ans, avoir fait TF1, D4, BNP et OVH
ouais.
en
ouais.
4 ans,
ouais.
sans avoir à démissionner de société, tu vois, enfin, sans avoir à refaire des périodes d'essai. Tu vois des environnements de travail complètement différents, tu vois des produits complètement différents, tu vois des, parfois peut-être des lieux d'intervention complètement différents. Donc,
bah, ça fait des belles carrières et des profils.
Bah, moi je pense que la prestation de service aujourd'hui pour un développeur junior, ou pour un, enfin pour, en tout cas pour un junior qui se lance, c'est le meilleur truc pour son CV. Quoi. Je te dis, en l'espace de 4 ans, tu peux avoir fait 4 beaux comptes,
ouais.
et après, une fois que t'es lancé, d'ailleurs nous c'est un peu ça qu'on cible, hein, si on arrive à fidéliser les gens pour déjà 3 ans, c'est déjà beau. Et le gars, il sort, il a appris des méthodes de travail, il a vu différents environnements, tout en étant hyper safe personnellement, parce que quand t'as plus de mission et que t'es en société de conseil, ben t'es toujours rémunéré à 100%.
Quand t'es en intermission, c'est
en quoi, intermission, en intercontrat, en interco.
Ouais, en intercontrat, du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait concrètement?
Elle se forme, elle bosse sur des projets internes,
ouais.
Elle peut potentiellement répondre à des appels d'offres. Elle met à jour son dossier de compétences, elle passe des entretiens.
Super.
C'est pas du temps mort. Hein. Après, c'est vrai que c'est parfois c'est un peu le mot tabou pour un consultant. Être en interco, c'est perdre du temps, c'est
ouais.
C'est être sur l'étal d'un supermarché à attendre. Faut pas que ça dure trop longtemps. Non, ouais.
Bon, c'est peut-être mieux que d'être au chômage ou au RSA.
Ah oui, clairement.
Bah,
en tout cas, t'es payé, comme je te dis, à 100% de.
Ouais.
C'est là où tu vois, on peut en revenir parfois sur le débat des freelances, mais bah, quand tu n'as pas de mission en freelance, tu as zéro.
T'as zéro, ouais.
Et nous, quand on fait le calcul, tu vois, par exemple, d'un salaire d'un TGM, nous, on se base sur 210 jours de travailler par an, payer par an. Bah, quand tu es en contrat freelance, va déjà trouver 210 jours.
Ouais, parce que t'es ton
avec tes commercial. Vacances. Ouais. Ouais, sans compter tes vacances, etc. Hein. Ouais. Donc 210 jours, ça va très vite. Donc c'est sûr que si nous, j'en connais hein, des très juniors qui connaissent pas encore trop le métier et qui disent ouais, mais là je vais être à tant de TGM, c'est tant de pourcents de plus que.
Mais tu vas aussi faire ta compta, tu vas aussi aller chercher tes clients, tu vas aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis commence par travailler 210 jours avec ce TGM. Donc ça veut dire que c'est déjà pas de vacances.
T'as, t'as un palier aussi, je crois, hein, 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
Oui, bien sûr. Ça, si oui,
après, puis, bon, tu peux toujours faire évoluer le statut.
Ouais, puis au bout de deux ans, tu payes 45% d'impôts ou je sais plus combien. Enfin, donc. Faire attention.
Là, ça vaut le coup de se renseigner, je pense, sur ce genre de métier. Et ça, vaut le coup, ouais. Ça dépend aussi du profil, je pense, du candidat, parce que certains aiment diversifier les missions.
C'est ça.
Nous, chez Grim, tu vois, par exemple, je pense qu'il y a une grosse appétence aussi dans la construction. Moi, je pense que, tu vois, on est en train de bâtir un logiciel. Mmh. C'est comme un peu comme si on construisait une cathédrale. Tu vois, c'est un projet sur peut-être 10-20 ans. Et tu construis cette fameuse cathédrale sans aller voir ailleurs. Ouais. Potentiellement, si on arrive à fidéliser nos collaborateurs. Et je pense qu'il y a un côté aussi très stimulant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles. Je pense que ça dépend du profil de chacun. Mais moi, je connais pas mal de gens qui bossent dans le service, d'autres qui bossent dans le produit. Et c'est vrai que souvent, bah, ça se croise. De vie, ça se croise.
Ouais, c'est sûr.
Quand toi, tu es consultant, il y a un moment aussi, peut-être, à un certain moment de ta carrière, tu as aussi peut-être envie de te poser un peu plus.
Oui.
Je ne sais pas si tu le vois apparaître.
Si, c'est en fait, c'est exactement ça. C'est là où souvent, on a le plus de... Enfin, où les personnes commencent à chercher ce qu'on appelle chez le client final ou en interne. Parce qu'il y a pas mal de personnes qu'on approche qui ont peut-être 10 ans d'XP qui vont dire non, maintenant fini le conseil, j'ai envie d'aller chez un client final, j'ai envie d'aller en interne. Donc ça veut dire intégrer une équipe d'un de ses peut-être anciens clients, hein, tu vois, et être entre guillemets sur quelque chose d'un peu plus stable. Loin de moi l'idée de dire que le consulting est pas stable, parce que c'est faux, mais quand tu es en interne, c'est vrai que tu vas peut-être travailler que sur une feature. Tu vas peut-être le produit, il est en voilà, il tourne quoi. T'es plus sur un truc forcément from scratch. Tu peux être plus posé, peut-être faire juste de la maintenance évolutive, un peu de correction de bugs, du relationnel, du management. Là où souvent, quand les sociétés de conseil, on intervient sur des projets de nos clients, c'est soit qu'il y a le feu, soit que c'est from scratch, soit qu'il y a de la dette technique à rattraper. Tu vois.
Il peut y avoir même aussi peut-être une restructuration.
Une restructuration, donc c'est toujours un peu plus... Mais il faut faire attention, hein, parce que nous, on a certains projets où des personnes sont restées 3 ans dessus. Mm-hmm. Déjà 3 ans, bon, t'es quand même sur un truc qui est quand même relativement stable.
C'est du budget que tu utilises. Il y a intérêt que le projet sorte, quoi.
Ouais, alors tu serais surpris de voir le nombre de projets qui sont jetés à la poubelle après des millions d'euros passés, mais...
Ça, j'en ai conscience, mais j'ai jamais vu ça.
Nous, pour le coup, plus le projet dure longtemps, plus on est content, théoriquement. Vu que c'est de la facturation la journée, on a une obligation de moyens et pas de résultats.
Okay.
En revanche, sur là où on a cette particularité qui est hyper intéressante chez ExoMind, c'est notre fameuse agence de développement, où là, par contre, on fait du développement from scratch dans nos locaux avec nos équipes, 100%. Là, c'est pas du tout pareil. C'est qu'on va budgétiser le développement d'une application. Ça va vous coûter tant, monsieur Paul. Ça va vous coûter tant. Et nous, après, on fait rentrer tout le truc dedans. Et si on dépasse, c'est pour notre pomme. Et là, obligation de moyens et de résultats. Donc, c'est différent, quoi.
Et ça vous arrive, quand un projet traîne trop longtemps chez un client, d'intervenir avec une approche un peu conseil en lui disant bah, vous avez vu les chiffres, vous avez vu le budget dépensé. Ok, c'est valorisant pour nous, ça nous fait du chiffre d'affaires, mais on est un peu inquiet. C'est des choses que vous...
Bon, honnêtement, non. Non, parce qu'on n'est pas...
C'est l'expertise du client, c'est son métier.
On est pas, déjà, c'est... Généralement, c'est lui qui coupe les robinets hein, quand ça va pas. Et après, nous, on n'est vraiment pas dans le change management où on va faire ça, ça va le faire mieux, quoi. On apporte des solutions techniques au client s'il en a besoin, des solutions de management s'il en a besoin aussi. Mais... souvent les projets, comme tu dis, où ça peut partir un peu en sucette ou être très 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 long, c'est chez des clients qui sont énormissimes.
Parce qu'il y a une grosse inertie en interne.
Il y a une inertie de malade et que souvent le projet a débuté depuis bien longtemps avant même qu'on y soit et que voilà, non, c'est inamovible. Le seul moyen qu'il pourrait y avoir dans ces cas de figure-là, c'est que le client dise ok, on casse tout, on stoppe ça et on repart à zéro sur autre chose. Mais bon, souvent c'est tellement politique que c'est hyper compliqué. Et pour le coup, on a suffisamment de problèmes de notre côté pour en plus aller sur ce côté-là, quoi, hyper politique.
Bah, écoute, je te remercie pour cette parenthèse sur le métier de consultant. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que je pense que je ne connaissais pas cette filière quand j'étais étudiant. Je ne me suis jamais trop intéressé à ces métiers-là. Et j'ai pas non plus beaucoup de personnes de mon entourage. J'en ai croisé qui ont bossé dans cet univers de cabinet de conseil.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement, je trouve. Mm. Et je pense que c'est un bon levier, un bon tremplin pour un début de carrière.
Ouais.
Et je le vois avec les écoles avec qui on gravite. Il y a quand même pas mal de programmes sur des modèles de conseil en finance, en management.
Ah oui, il y en a énormément.
Par contre, il y a toujours ce challenge du premier job. Moi, ce que j'aime bien chez vous et ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est toutes les initiatives que tu peux lancer autour de la marque employeur. Parce que tu as quand même une belle verticale événementielle au-delà d'essayer d'attirer des consultants, de faire un peu de com. Mm-hmm. Tu vois, je pense que c'est quelque chose d'assez inspirant. Tu me disais... aimais beaucoup les jeux vidéo, que tu avais réussi à lier un peu l'utile et l'agréable avec le travail en lançant des événements sur Twitch, par exemple.
Ouais.
On a... Tu peux me parler de quelques initiatives là.
On a lancé pas mal d'initiatives sur Twitch, oui. Alors comme tu dis, c'est parce que moi je suis assez fan de la plateforme en tant qu'utilisateur dans le privé. Et c'est vrai que on a pu organiser des tournois de League of Legends, des talks sur Twitch et force est de constater que ça colle bien avec notre audience. Donc en fait, c'est un win-win. Aujourd'hui, justement, les sociétés de conseil ou les ESN ont assez mauvaise presse de par leur taille énorme, de certains de nos concurrents qui sont vraiment gargantuesques. Et où, on est parfois, d'un point de vue communication, on est un peu à la ramasse. Par rapport à la cible aujourd'hui d'un personae de développeur, si je te le fais aujourd'hui, voilà.
Développeur junior.
Et voilà, moi j'essaye vraiment de m'adapter à ça avec les trends, et puis ça, je le vis au quotidien de mon côté perso, donc ça a été assez facile pour moi d'adapter des plateformes, des trends, des tournois, tu vois, d'utiliser des jeux vidéo, d'utiliser...
Concrètement, tu vas chercher dans des écoles des étudiants, développeurs, tu les attires sur un événement, vous passez un bon moment ensemble sur Twitch, et derrière, l'idée, c'est de garder contact pour...
C'est ça, l'idée...
En lien avec l'insertion professionnelle, quoi.
C'est ça, l'idée, c'est... Si je te dis, nous notre axe, enfin, notre première volonté, c'est de recruter. Aujourd'hui, si on pouvait recruter... Alors... recruter et onboarder correctement. Hein.
Ouais, je vais pas te dire, j'aimerais.
Voilà, j'aimerais pas. Je vais pas te dire, on est en capacité de recruter 1000 personnes dans l'année. Aujourd'hui, ce serait pas faisable. En revanche, on est tout à fait apte à recruter et intégrer très bien 50, 70 personnes sur une année, peut-être même 100. Voilà, on est armé pour ça, on sait onboarder les gens, on sait les positionner sur des projets challengeants, on sait les accompagner d'un point de vue RH, d'un point de vue progression de carrière, d'un point de vue formation, d'un point de vue mentorat. Donc aujourd'hui, voilà, on est apte à le faire, quoi.
C'est comme un avantage concurrentiel, c'est un levier de différenciation chez vous, tu penses ? Cette façon de faire, cet ADN.
Là où tout le monde pourrait dire on est à même de t'aider d'un point de vue RH, évolution de carrière, etc. Là où nous, on a une vraie valeur ajoutée, ça va être la proximité avec les personnes. Moi, aujourd'hui, je connais le prénom et le nom de famille de tous les employés de la société, tu vois. Mais c'est normal, ça reste encore gérable sur ce nombre de personnes. Évidemment, quand tu commences à être 2000, 3000, bon... c'est plus possible. Mais aujourd'hui, la taille de notre société nous permet d'être bien plus agile que même une moyenne entreprise de 1000-2000 personnes. Moyenne. J'abuse en disant moyenne, mais dans notre secteur, c'est une entreprise de taille moyenne, quoi, 1000-2000 personnes. Donc nous, on est vraiment encore un petit acteur, mais qui, comme je te dis, nous permet d'être hyper agile, d'être hyper proche des personnes et de vraiment pouvoir traiter au cas par cas. Aujourd'hui, on peut encore faire du cas par cas.
Et si on devait aider ExoMind dans son recrutement pour les prochains mois, là, pour l'année 2023, si tu avais une baguette magique, là,
si j'avais une baguette magique, on terminerait là dans la semaine Grim Business.
Ah ouais, la version et pour les recruteurs, c'est sympa la dédicace.
une version pour les recruteurs, ouais. Et non, ouais, si ça plus sérieusement, pas, ouais. Ça nous permettrait d'approcher des gens, de les qualifier correctement et puis de pouvoir les orienter surtout correctement. Ouais. Et sans promettre quelque chose qui n'est pas possible, tu vois. Ouais. Parce que je pense aujourd'hui, il faut aussi en avoir conscience. C'est sûr que si tu sors de 3 mois de formation, tu te reconvertis dans le dev, tu sors 3 mois de formation, ben, tu ne seras peut-être pas un consultant senior demain, tu vois. Donc,
la route est longue.
Ouais, la route peut être longue ou pas, ça dépend. Hein. Dans le dev, tu as énormément d'autodidactes. Ouais. C'est un métier où tu peux avoir beaucoup d'autodidactes, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre un mécano qui a 15 ans d'expérience et un mec qui bricole dans son garage depuis toujours et qui par-dessus a fait une petite formation de 3 mois, bah, parfois tu as quand même un gap qui est important à franchir. Quoi. Mais ouais, non, on... plus d'entrées spontanées, plus de candidatures, hein, c'est ça, ouais. Dont on a besoin.
Faites beaucoup de chasse, et c'est vrai que sur des métiers comme développeur web, c'est vrai que les candidats sont très sollicités.
Oui. Oui. Et sur-sollicités,
ouais. Donc il y a un enjeu effectivement d'être positionné peut-être au bon endroit, sur les bons leviers d'acquisition marketing, de faire peut-être un peu budget de publicité payante, de faire un peu de SEO, ou c'est ça. Des initiatives là-dessus. Hein.
Ouais. Encore assez peu, mais ça commence. Aujourd'hui, il faut surtout, selon moi, arriver avec une bonne proposition de valeur pour le candidat. Donc, ouais. Des bonnes missions, une bonne montée en compétences, un salaire en adéquation avec la zone géographique.
Peut-être une belle culture d'entreprise aussi.
Voilà, et le métier, une belle culture d'entreprise, donner envie, quoi.
Ouais.
Je ne vais pas te dire que travailler chez ExoMind, c'est mieux que travailler chez un tel ou un tel de nos concurrents, mais en tout cas, aujourd'hui, en 4 ans, je pense qu'on a les armes et la culture d'entreprise déjà bien forgées pour faire décoller quelque part ta carrière, révéler le potentiel, nous c'est un peu ce qu'on se dit. Et on a de plus en plus de beaux exemples de personnes qui ont été révélées et c'est hyper, hyper cool, quoi.
Écoute, j'ai peut-être une ou deux dernières questions. La première, c'est concernant ton métier de responsable marketing, communication, marque employeur. Tu vois, je te donne plein de titres.
Ouais.
Peut-être un jour Chief Marketing Officer,
peut-être,
dans le jargon startup, qui sait. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des étudiants qui veulent faire... Parce que en fait, moi, je vois beaucoup de candidats étudiants. Ouais. Je veux faire du market, je veux faire de la com. Et du coup, bah, y en a beaucoup. On a une forte compétition là-dessus, une forte concurrence. Comment atteindre, tu vois, comment trouver comment faire pour devenir, tu vois, responsable communication marketing, parce que quand on est junior, en fait, on peut pas tout de suite prétendre à ce genre de poste.
Non, ouais.
On est plutôt sur des petites missions, sur une sub verticale, on fait peut-être un peu de community management. Mais si tu veux nous parler un peu de ton métier et donner les clés à un futur candidat pour devenir responsable com et marketing d'une ESN comme la tienne.
Je pense que il faut vraiment être déjà hyper curieux de moi, ce que je qualifierais de pop culture, ou en tout cas de tout ce qui se passe sur internet, sur Twitch, même sur Insta ou autre. Je pense qu'aujourd'hui tu peux pas être bon et pertinent, en tout cas ça dépend une fois de plus à quelle cible tu vas t'adresser, mais si tu comptes t'adresser aux générations qui vont arriver, aux jeunes actifs, etc., aujourd'hui je pense que tu peux pas être bon si tu comprends pas la moindre référence internet, si t'es incapable de comprendre un mème, si t'as pas la ref limite sur j'en sais rien, sur pourquoi Game of Thrones c'était ce que ça a été, ou pourquoi ChatGPT fait couler autant
d'encre.
Faire
de la veille, c'est hyper important.
Ouais, alors Ce qui est un peu facile ou pas facile, c'est que moi, par exemple, dans mon cas, c'est même pas de la veille parce que c'est genre mon quotidien en off, de checker ce qui se passe sur YouTube, sur Twitch, de voir le dernier animé qui est sorti. Bon. Mais en tout cas, si c'est pas dans votre truc, ça, c'est indispensable quoi, d'être abonné à des newsletters, de vraiment de se cultiver à cette culture internet. C'est impossible aujourd'hui. Je pense qu'on pouvait s'en passer encore, même moi, quand j'ai commencé. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, on va dire. Je pense qu'on pouvait encore être un peu léger sur les mèmes. Ouais, j'ai pas compris ce que c'était un troll face. Bon, pourquoi pas dire. Même moi, aujourd'hui, je pense que j'ai des références mèmes. Enfin, je sais même pas, je pense, c'est qui n'existe même plus, quoi. Donc, je demanderais même pas forcément d'avoir. Mais ouais, je pense aujourd'hui, si, il faut parce être
que,
à fond là-dessus.
Ouais, parce que finalement, dans toutes ces actions de marketing, de com, d'événementiel, on copie beaucoup, on va pas se mentir.
Ouais,
on,
tu copies, à minima, tu réutilises ou tu surfes sur une traîne. Alors oui, tu peux inventer une traîne. Et parfois, sans le faire exprès, mais
Et moi, tu vois, je vois 2-3 compétences qui sont aussi ultra importantes. C'est la capacité d'écrire pour voir le copywriting,
ça, c'est
d'écrire
évident.
Correctement. Aujourd'hui, il y a deux fautes sur un CV, on te met de côté.
C'est évident.
Tu fais du contenu sur le web. En plus, on est tous un peu en hybride, en télétravail. Si t'as pas une belle plume.
Ça, j'allais venir. Ouais, l'écriture, c'est indispensable. Ouais.
Moi, je passe beaucoup de temps là-dessus. Hein, et puis, j'essaie de faire comprendre à toute mon équipe que les mots ont une valeur, ont de la puissance. Que ça peut être. Gros levier de business, hein, de croissance. Et je pense que sur ces métiers-là, c'est ultra important.
C'est hyper important.
Et voilà, on a perdu 3-4 minutes d'enregistrement. Le premier problème technique sur mon podcast est arrivé. C'est pas bien grave. On discutait du futur, c'est maintenant. Mais selon Hugo, c'est très important de lancer des projets, de pouvoir faire preuve d'audace, de se construire un petit peu des opportunités dès l'école, en tentant des choses, ce qui permet de se construire une belle carrière et de façonner finalement son avenir professionnel. J'ai beaucoup aimé l'échange. Je trouve que Hugo fait des contenus super cool et inspirants avec ExoMind, son entreprise, au niveau de la marque employeur notamment. Il y a un bel enjeu de recrutement chez eux, donc si vous voulez candidater, si vous cherchez une super boîte, un beau cabinet de conseil à Paris, bah, n'hésitez pas à contacter Hugo sur LinkedIn ou peut-être d'envoyer une candidature sur ExoMind. À bientôt, salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.